Bonjour. Bonjour, ça fonctionne. Bonjour à tous, ça va bien? Oui. Il fait beau finalement, les vacances sont finies puis il commence à faire beau. C'est le fun. Je suis content pour ceux qui sont en vacances. La semaine passée, je vous disais vite fait quand j'ai fait les annonces qu'on revenait de vacances puis on a passé quelques semaines au camp des boulots cet été. J'ai eu la chance encore une fois d'être le directeur au camp d'ado. On a eu une super belle de semaine. Ça prend après ça quelques semaines pour se reposer, mais ça vaut la peine de voir qu'est-ce que Dieu fait dans la vie des ados. Puis la semaine passée, quand on est arrivé à l'église, ça faisait quelques semaines qu'on n'était pas venu. Puis mon garçon Mathis, qui a 2 ans, quand il était dans le stationnement, il a eu comme un sourire là, instantané, qui était content de venir à l'église. Puis c'était pas le cas un matin, là, par exemple, mais mais c'était comme... Tu voyais comme, hey, il était content d'être ici, puis j'ai eu une pensée en moi quand j'ai vu ça, que premièrement, j'étais content de voir qu'il était content de venir ici, mais je me suis dit, hey, j'espère qu'il va aimer venir à l'église pour longtemps, pour des années à venir, puis même qu'en grandissant, il va prendre la décision de suivre Jésus, puis qu'il va être excité le dimanche matin d'aller à l'église ou de vivre avec des chrétiens en communauté, puis de vivre l'évangile. C'est cette espérance-là que j'ai eue par ce petit sourire-là. Et ce matin, c'est de ça que je veux parler. Je suis, ceux qui me connaissent pas, je suis pasteur de la jeunesse ici. Puis je me suis dit, cet été, je vais prêcher une fois, puis je veux prêcher sur la jeunesse. Puis je veux prêcher sur l'influence qu'on peut avoir en tant que pasteur de jeunesse. C'est quelque chose que je réfléchis constamment. Quelle est l'influence que je peux avoir, moi, sur les jeunes? Puis aussi, quelle influence que les gens dans l'Église peuvent avoir sur les jeunes. Et je veux vous dire en partant que j'aime l'Église. J'étais aussi content que Mathis la semaine passée de revenir ici après les vacances. J'aime l'Église principalement parce que c'est l'Église de Jésus. Et c'est l'Église, c'est le plan de Dieu pour transformer des vies par son Évangile. Certainement pour transformer des vies qui connaissent pas Jésus, qui vont venir à sa connaissance, mais aussi pour transformer les vies de chacun d'entre nous qui sommes ici puis qu'on a une relation avec Jésus. Et Dieu se sert de chacun d'entre nous ici. Il se sert de son Église pour nous aider à grandir dans notre foi. C'est par les relations qu'on a les uns avec les autres que Jésus nous fait réaliser qu'on a besoin de lui. Il fait grandir notre amour pour lui et pour les autres à travers nos relations qu'on a dans l'Église. On est tous et chacun ici ce matin des outils dans les mains de Dieu. Des outils dans les mains de Dieu pour la croissance les uns des autres. Et ce matin, c'est ce que je veux qu'on regarde spécifiquement ensemble. C'est qu'on est tous des outils dans les mains de Dieu pour la croissance spirituelle de nos jeunes, de nos enfants, de nos ados, nos jeunes adultes, puis toutes les personnes qui sont plus jeunes que nous dans la foi. Il y a un proverbe africain qui dit « Ça prend tout un village pour élever un enfant. » Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est que les jeunes vont être impactés par le témoignage de toute une communauté chrétienne. L'expérience que les jeunes vont vivre dans les églises en côtoyant d'autres chrétiens va être vitale pour leur foi. Il ne suffit pas d'expliquer la foi aux jeunes, mais c'est aussi le témoignage qu'on va leur rendre en tant que communauté, en tant que corps de Christ, qui aura plus d'impact dans leur vie. Une étude qui a été faite aux États-Unis, a démontré qu'un des facteurs les plus importants pour que les jeunes restent dans les églises, mais aussi qu'ils restent attachés à la foi, c'est ça, qu'ils progressent dans leur foi, c'est les relations qu'ils vont avoir avec les adultes dans leur église. Et cette étude-là ne dit pas que les ministères pour enfants ou les ministères de jeunesse sont pas bons, mais elle dit que quand que les jeunes se sentent qui font partie de la vie d'église, qui connaissent des gens plus vieux qu'eux, qui s'intéressent à eux, ben ces églises-là ont démontré un meilleur taux, si on veut, de réussite pour garder leurs jeunes dans leurs églises, mais aussi que la foi des jeunes devient de plus en plus authentique, ça devient leur foi à eux. Alors ce matin, on veut regarder ensemble comment est-ce qu'on peut, en tant qu'église, avoir de l'impact dans notre jeunesse. Et comme on a vu que c'est notre témoignage en tant que communauté qui parlera le plus aux jeunes, bien on va voir ce matin quelques aspects d'une communauté qui a été transformée par l'Évangile, qui vont nous aider à être un outil plus efficace dans les mains de Dieu pour faire grandir les plus jeunes dans leur foi. Et je dis pas ça parce que je pense qu'on le fait pas. J'ai plein d'exemples qui me venaient en tête quand je préparais ce sermon-là, où est-ce que je suis reconnaissant à Dieu pour l'Église qu'on a, qui aime les enfants, qui aime les jeunes. Mais on veut, en ayant cette réflexion-là, voir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse mieux par sa grâce pour qu'on puisse répondre avec obéissance à sa parole. Et avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour le temps qu'on passe ensemble ce matin. Je te remercie pour ton amour dans nos vies. Merci parce que tu nous as réunis ici en église, Seigneur, en assemblée. Et je te prie qu'on puisse être vraiment bénis par l'enseignement de ta parole, qu'on puisse être convaincus, Seigneur, de comment est-ce que tu veux qu'on obéisse à ta parole, Seigneur, pour nos vies. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous aujourd'hui. Dans ton nom qu'on te prie, Seigneur Jésus. Amen. Donc, le premier élément d'une communauté qui est transformée par l'Évangile, le premier impact qu'on peut avoir dans la vie des jeunes, c'est bien sûr d'enseigner la vérité de la parole de Dieu. Une communauté qui est transformée par l'Évangile va chercher à enseigner la vérité de la parole de Dieu. Elle va étudier la parole de Dieu et cherche à la mettre en pratique dans tous les domaines de sa vie. Et plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos jeunes? C'est enseigner et mettre en pratique la grâce de Dieu, la grâce de Jésus. Et un passage qu'on va voir ensemble ce matin, c'est dans Tite 2. Dans Tite 2, on voit Paul qui encourage Tite à donner des consignes à différentes personnes dans l'Église concernant leur comportement. Ça, c'est au début du chapitre 2 qu'on va pas lire ensemble, mais il va dire à un tel de faire ceci, à un autre de faire comme ça, à l'autre d'avoir telle attitude. Il va encourager les gens à agir de telle manière. Il leur parle de comportement. Et il arrive ensuite dans les versets 11 à 14 qu'on va lire ensemble. Tite 2, versets 11 à 14. Il leur dit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour toutes belles œuvres. Ce que Paul est en train d'enseigner ici dans Tite, c'est que la grâce de Dieu envers nous et la motivation première qui nous pousse à faire des bonnes œuvres, à avoir un bon comportement, à faire les bonnes choses, à plaire à Dieu, à faire ce que Dieu nous demande dans sa parole. C'est la grâce de Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés, qui nous enseigne à renoncer au mal, à ne pas succomber à nos diverses tentations. Elle nous enseigne au contraire à faire le bien, à rechercher Dieu, à chercher à faire ce qui lui plaît. Puis Paul nous rappelle dans ce passage-là qu'on peut persévérer dans sa grâce, parce qu'il nous donne une espérance qui est la vie éternelle. Alors, comme chrétien, comme église, on a la motivation, on a la puissance qui nous permet de faire le bien et de plaire à Dieu. Pas par mes propres forces, pas parce que je suis bon et doué, pas parce que je persévère et que je mérite quoi que ce soit à cause de ma persévérance, mais seulement par la grâce de Dieu. Il a tout fait pour nous. Il nous a rachetés, il s'est fait un peuple, il nous donne sa grâce. Alors, la grâce de Dieu nous a sauvés, et puis ce passage-là nous dit qu'on a besoin de continuer de vivre par sa grâce dans nos vies, pour se laisser transformer par lui. Ce qu'on veut faire en tant que communauté qui est transformée par l'Évangile, c'est de toujours se ramener à la grâce de Dieu. De toujours se rappeler c'est quoi la grâce de Dieu les uns aux autres. On veut se rappeler que nos bonnes actions ne servent pas à gagner la faveur de Dieu, mais c'est une démonstration, un résultat de sa grâce dans nos vies. Et quand on est avec les jeunes, il faut faire attention de pas leur mettre un fardeau en leur donnant l'impression que la vie chrétienne c'est une liste de choses que je peux faire puis une liste de choses que je peux pas faire. Et quand que je fais quelque chose de bien, ben t'es un bon petit gars ou une bonne petite fille, puis que quand je fais quelque chose de mal, ben là on leur dit comment sont peut-être, ben là je caricature un peu, mais pas des bons chrétiens ou des bonnes chrétiennes. On veut faire attention à ça. On veut qu'ils voient premièrement ce que Jésus a fait à la croix pour eux. On veut qu'ils voient que ce que Jésus a fait à la croix nous motive à faire et à ne pas faire certaines choses. Quand je pêche, quand je fais le mal, je prends les mauvais choix. Je peux me tourner vers Dieu pour lui confesser mes péchés. On peut toujours retourner à Dieu puis lui demander pardon pour ce qu'on a fait plutôt que de se culpabiliser. Moi, adolescent, puis souvent c'est pas, je dis pas ça comme parce que nécessairement on enseigne les jeunes dans cette façon-là, mais c'est comme il peut avoir ça, mais il peut aussi avoir comme c'est une façon d'approcher la vie qui est assez facile. Si je fais le bien, je vais être récompensé. Si je fais le mal, je vais être puni. Puis je trouve ma valeur dans ça quand que j'arrive à plaire à mes parents ou quand j'arrive à plaire aux gens à l'église ou quand j'arrive à plaire à Dieu, mais là je suis une bonne personne et le contraire fait de moi une mauvaise personne. Et en grandissant, je voyais comme de plus en plus les choix qui s'ouvraient à moi. Je pouvais prendre mes propres décisions. Et là, tu te rends compte que ouais, je sais pas si je veux encore vivre ma vie à cocher une liste vraiment plate de tu peux faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas aller là. Puis sans avoir aucune motivation à l'intérieur de moi qui me dit pourquoi est-ce que je veux faire ou est-ce que je veux pas faire ces choses-là. On veut se rappeler ça constamment, à quel point on a besoin de la grâce de Dieu dans nos vies, mais on veut rappeler constamment aux jeunes comment c'est pas leurs actions devant Dieu. Ultimement, on est pécheurs, ultimement, on est loin de Dieu, ultimement, c'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas qui change mon statut devant Dieu, mais on est des pécheurs et on a besoin de la grâce de Dieu. Je peux rien faire pour plaire à Dieu. Mais je peux seulement m'humilier et prendre plaisir dans sa grâce. C'est un signe d'adoration envers Dieu qui est un témoignage puissant pour nos jeunes. Quand que j'ai fini mon secondaire, j'ai fait une année d'école biblique et j'avais une copine et à un moment donné, on a rompu pendant l'année et j'ai appelé mon coach à l'époque, mon mentor, qui c'était Georges Larrabie, puis je l'appelle, puis je lui disais comment est-ce que c'était fini, puis que dans le fond, comment je me sentais loin de Dieu avec toute cette histoire-là, comment est-ce que je sentais que j'avais pas honoré Dieu. Je lui disais des paroles comme « Dieu a fini avec moi, Dieu veut plus rien savoir de moi ». Je lui parlais comme ça, et pour m'encourager, Georges m'a répondu « Dominique, tu es en train de pécher en ce moment parce que tu n'acceptes pas la grâce de Dieu dans ta vie. C'est comme si ton besoin de te culpabiliser, c'est ça qui va te ramener à Jésus. » Et Et ces paroles-là sont restées gravées dans ma tête depuis ce temps-là. Où est-ce que, depuis ce jour-là, où est-ce que j'ai été encouragé à considérer la grâce de Dieu quand je reconnais avoir fait un péché, quand je reconnais des mauvaises actions. Mais c'est pas que je dois me culpabiliser jusqu'à temps que je me suis assez culpabilisé pour me sentir bien de retourner vers Dieu puis lui dire, bon, mais peut-être, Seigneur, que tu es prêt à faire un autre petit bout avec moi. Mais c'est de réaliser le plus vite possible que, justement, j'ai besoin de lui en ce moment pour me pardonner. J'ai besoin de confesser mes péchés maintenant et de demander pardon. Et de prendre plaisir avec humilité dans sa grâce. Ce qu'on veut, puis je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine parce que je réfléchissais à ça, puis on veut que l'Évangile devienne une bonne nouvelle pour nos jeunes. On veut que l'Évangile soit une bonne nouvelle dans notre vie. Et quand que je pense à Évangile, justement, qui veut dire bonne nouvelle, puis on m'a déjà expliqué que dans les temps anciens, quand quelqu'un revenait de la guerre puis qu'il disait, il allait porter l'Évangile au village, qui disait la guerre est finie, on a remporté la guerre. Et ça, c'était une bonne nouvelle. Et je m'imaginais cette personne-là qui peut-être qui est à cheval ou peu importe, qui s'en va vers son village, qui monte là, puis là les gens le voient arriver, tu sais, au loin, puis il vient vers eux. Puis quand il annonce la guerre est finie, comment est-ce que le village devait être soulagé, puis content, puis heureux que eux n'allaient pas être dévastés, que c'était terminé, qu'il n'y a plus personne qui allait mourir par cette guerre-là. Puis ça devait tellement faire toute la différence dans leur vie. C'était pas comme, ah, cool, merci pour l'information, puis on retourne faire nos affaires. Mais ça devait transformer leur vie, leur pensée, leur joie. Et je me dis, ce que Jésus est venu faire dans ma vie, c'est encore plus grand que ça. Et quand que ça devient une bonne nouvelle dans notre vie, mais c'est là qu'on est motivé à vivre pour lui et à chercher à l'honorer à chaque jour. Et quand on est avec nos jeunes, souvent c'est ça qu'on veut dire à nos ados. C'est ça que j'aime, c'est ça qu'on m'a dit, puis j'ai des exemples tantôt que je veux donner plus loin, mais on veut dire à nos ados, ça fait une différence dans notre vie de recevoir Jésus comme sauveur. Et c'est justement qu'est-ce que des gens qui sont en contact avec les jeunes, on veut faire, c'est qu'on veut raconter les merveilles de Dieu dans nos vies. Comment est-ce que Dieu a été vrai dans ma vie? Comment est-ce qu'il a affecté ma vie? Et sans aller voir dans ce passage-là, mais dans pour ceux qui prennent des notes, dans Deutéronome 6, les versets 4 à 9 et ensuite 20 à 25, c'est un passage où Moïse s'adresse au peuple, puis il prépare le peuple à prendre possession du pays que Dieu avait promis. Puis il leur rappelle les 10 commandements, il les encourage à mettre en pratique les commandements que Dieu leur a donnés. Puis il leur dit, parce que c'est de cette manière que vous allez être heureux dans le pays que Dieu vous donne. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que après leur avoir donné cette consigne, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne, tu les inculqueras à tes enfants et tu vas leur répéter partout où tu vas aller. Et un peu plus loin, il dit, et quand ton fils va te demander que signifient ces commandements, tu vas lui raconter que nous étions des esclaves en Égypte et que l'Éternel a fait de grands miracles pour nous sortir de là, pour nous amener dans le pays qu'il avait promis de nous donner. Il veut qu'on mette en pratique ses commandements pour qu'on puisse le craindre et être heureux dans le pays qu'il nous a donné. C'est l'œuvre de salut de Dieu envers eux qui les motive à mettre en pratique ses commandements. Quand j'ai lu ce passage-là, j'étais étonné de voir que l'emphase n'était même plus mise sur les ordonnances, sur les commandements de Dieu, mais plutôt sur qu'est-ce que Dieu avait fait pour eux. Et voilà la motivation, voilà la puissance qui va vous faire persévérer, qui va vous faire suivre Dieu et la volonté de Dieu, et qui va vous faire grandir dans la présence de Dieu pour toute votre vie, si tu te rappelles qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie et qu'est-ce qu'il continue à faire pour toi dans ta vie. Et dans le psaume 145, le psaume 145, les versets 1 à 7, on peut lire « Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. » Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Et ici, au verset 4, il y a des versions qui vont dire qu'une génération dise à la suivante. Et au verset 5, je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. Et on célébrera ta justice. Dans ces passages, on peut clairement voir que c'est Dieu et son œuvre dans la vie du peuple d'Israël qui motivent les gens à vivre pour lui et à obéir à ses commandements. Et c'est la même chose avec nos jeunes. On doit parler à nos jeunes de Dieu et comment est-ce que Dieu a été vrai pour nous dans notre vie. Et quand j'étais à la jeunesse, j'avais peut-être 13 ans, 14 ans environ. Et moi, j'étais vraiment béni dans mon adolescence où est-ce qu'il y avait toujours, j'avais une gang d'amis puis il y avait toujours des gars plus vieux qui s'investissaient dans nos vies. On allait jouer au hockey les dimanches après-midi avec eux, on allait au cinéma avec eux, j'ai fait beaucoup de planches à neige avec des gars qui étaient pas mal plus vieux que moi, puis c'est des gars qui ont eu des impacts dans ma vie. Je peux pas toutes les nommer, mais il y a une chose qui m'a toujours marqué. Une fois, le dimanche après-midi, on était allé jouer au hockey, je pense que c'était à l'école Jean 23, je me souviens plus qui exactement qui était dans l'auto avec moi, mais c'était Victor qui nous conduisait, et Victor nous parlait de Dieu. Puis je pense que ça faisait pas super longtemps qu'il était revenu au Seigneur, puis il nous parlait de Dieu. Et il tripait à me parler de Jésus. C'était ça dans ma tête que je comprenais pas. Il me parlait de comment c'était cool, qu'est-ce que Dieu avait fait, puis comment est-ce que Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait dans sa vie. Puis j'étais là, puis j'écoutais ça, puis j'avais grandi dans l'église, puis je l'écoutais me parler, puis en moi, il y avait quelque chose qui me disait, c'est pas normal qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'était trop beau. Et je me souviens de ça parce que je sais que c'est toutes ces petites discussions informelles-là, ces relations-là que j'avais avec des gens qui ont eu un impact dans ma vie. Et de voir des gens qui ont la joie, qui sont émerveillés de la grandeur des œuvres de Dieu dans leur vie, ça fait un impact, ça fait une différence et ça l'a fait une différence dans ma vie. Et un autre aspect de la communauté centrée, d'une église qui veut avoir de l'impact dans la vie de ces jeunes, c'est dans notre vie de prière en communauté. Le but de ce que je veux dire, c'est pas dans le but de, tu sais, des fois on prie puis on peut faut pas avoir l'impression quand on écoute les autres prier, c'est comme il dit plein de belles affaires puis il parle bien puis tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on veut démontrer aux jeunes à quel point on dépend de Dieu puis à quel point on croit dans celui à qui on parle. Et c'est un peu dans le même sens que l'étude discussion que j'ai eue avec les gens. Mais quand je passe du temps avec les ados, ce que je me rends compte, c'est que tu le sais pas justement. Quel moment qui va te marquer qui va marquer à cet ado-là dans le temps que tu as passé avec lui. Et À la jeunesse, on met beaucoup d'emphase sur la prière, comme on a des petits groupes, on veut prier, puis la question est déjà venue, ben c'est comme les jeunes, en général, c'est pas comme la partie où est-ce que genre les jeunes sont le plus excités à la jeunesse, c'est quand on va prier, puis là c'est pas comme tout le monde prie 5 minutes chaque, puis des fois on peut être dans les petits groupes, ça va bien, mais c'est plus une partie qui est difficile, mais un des objectifs qu'on a à maintenir la prière avec les jeunes, c'est, on dit qu'on veut être des modèles dans la vie des jeunes. Premièrement, qu'on considère que prier à Dieu, c'est important, mais aussi, on veut que les jeunes entendent qu'est-ce qu'on est en train de dire à Dieu. Que nous, on croit à ça, puis des fois même, si toi, tu manques de foi, mais moi, je crois que Jésus peut faire ça dans ta vie, puis je veux t'accompagner là-dedans. Et une chose qui est puissante pour n'importe qui croit pas en Jésus, c'est de voir une église, de voir des chrétiens qui confessent leurs péchés les uns aux autres. Nos jeunes vont apprécier cet environnement où ils n'ont pas l'impression qu'ils sont obligés de performer ou qu'ils sont obligés d'être parfaits. Ils vont apprécier d'être dans une église où ils vont... Ils vont voir que les autres, les adultes, luttent aussi avec le péché. Ils vont se sentir plus à l'aise de partager ce qu'ils vivent ou de juste être là, puis de se dire, ben c'est correct si je suis ici, je viens comme que je suis, puis je suis pas parfait. J'ai déjà parlé avec des jeunes qui sont venus à l'église, qui ont grandi dans l'église, puis à un moment donné, le constat qu'ils ont fait, puis ça veut pas dire que c'est... Comme je dis, c'est pas nécessairement la faute de une ou deux, trois choses. On est ultimement tous responsables pour notre état devant Dieu. Mais cette personne-là me disait, j'avais l'impression que j'étais pas capable d'être un bon chrétien, puis ça m'a découragé, puis j'ai arrêté de venir à l'église. On veut être capable de mettre un contexte en pratique. On veut mettre en place un contexte où est-ce que les jeunes peuvent venir et être eux-mêmes et apprendre à dépendre de la grâce de Dieu, puis être capable de pouvoir aussi voir que les autres aussi ont besoin de Dieu, autant qu'eux. Moi, je me rappelle la première fois que je me suis décidé à parler de mes péchés à un adulte, qui était une personne importante pour moi dans ma vie. Je dis, j'aimerais ça avoir une bonne relation avec lui, j'ai besoin d'aide. Fait que je vais lui en parler de mes difficultés, de mes péchés. Puis j'avais peur, puis c'est comme dans ma tête, là, c'était comme, OK, go, vas-y là. Puis un, deux, trois, go, là, tu y parles. Puis, tu sais, c'est comme, ça sortait pas, là. Puis la première chose qu'il m'a dit après que je lui ai partagé quelque chose, il dit, mais moi aussi j'ai lutté avec ça, puis j'ai lutté avec ça longtemps. C'est comme, aïe aïe. Ça, c'est bon de vivre cette communauté-là où est-ce qu'on peut pas se dire, je suis comme les autres, fait que je suis correct, j'arrête de... Non. Mais où est-ce qu'on peut se confesser nos péchés, demander le pardon de Dieu, puis contempler avec humilité sa grâce dans nos vies. On veut être un outil dans les mains de Dieu pour permettre à chaque membre de notre communauté chrétienne de confesser ses péchés et de se repentir. Et lorsque nos enfants, nos ados, les nouveaux dans la foi, ont le sentiment qu'ils appartiennent à une communauté qui vont rester, c'est à ce moment-là qu'ils vont rester puis qu'ils vont grandir. Lorsque nos jeunes vont voir, quand ils vont dire, ça c'est mon église, j'appartiens à cette église-là, mais on va voir qu'ils vont commencer à grandir, qu'ils vont participer à la vie d'église, qu'ils vont s'impliquer et qu'ils vont grandir dans leur foi. Le sentiment d'appartenance, l'identité est extrêmement important dans la vie des jeunes, des ados surtout. Qui est-ce que je suis, puis où est-ce que je m'en vais, puis ça, c'est-tu ma décision ou c'est celle de mes parents? Et on veut être là pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, pour les encourager à tout le moins à pouvoir prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce que ça veut dire d'appartenir à une communauté transformée par l'Évangile? Qu'est-ce que ça veut dire d'appartenir à une église? Comme disciple de Jésus, notre plus grand désir, notre objectif est de refléter de plus en plus l'image de Dieu. On a été créé à son image et cette image-là a été déformée à cause du péché. Et maintenant qu'on est réconcilié avec lui, notre objectif est encore à nouveau de refléter son image, de lui ressembler. On veut vivre comme lui, il veut qu'on vive. Et comme communauté, comme église, on a cet objectif commun de refléter l'image de Dieu. Alors, appartenir à une communauté qui est transformée par l'Évangile, c'est s'accompagner les uns les autres pour qu'on reflète l'image de Dieu. Et on est des outils de sanctification les uns pour les autres. Et il y a un passage dans le livre des Actes. Acte 2, les versets 42 à 47. Où on peut voir, on peut lire, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, on parle des disciples ici, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous et en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce qu'on peut retenir de ce passage, ce que je veux faire ressortir ici, c'est on peut voir que les chrétiens vivaient en relation vraiment proche les uns avec les autres. C'était une famille. Ils étaient souvent ensemble. Quand on voit qu'ils mettaient tout en commun, on peut facilement penser juste à l'aspect argent où ils vendaient tout puis ils vivaient ensemble, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils mettaient toute leur vie en commun. Ils étaient un et le monde rendait témoignage favorablement de cette communauté-là. C'est tout ce temps passé ensemble à étudier la parole, à se frotter les uns aux autres, à confesser les péchés, se réconcilier, s'exhorter, se pousser à faire le bien et à honorer Dieu qui fait de nous un peuple qui reflète l'image de Dieu, de notre Sauveur Jésus. Et puis, on est une notion qui est peut-être pas populaire en 2014, c'est que nos relations, c'est qu'on est en relation les uns pour les autres. C'est révolutionnaire comme pensée parce que aujourd'hui on va nous dire que du moment que nos relations nous apportent quelque chose, ben c'est correct d'avoir ces relations-là. Mais juste vite fait, vous êtes dans Philippiens 2, 1 à 5. On peut lire, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Dans une communauté qui est transformée par l'Évangile, On est là les uns pour les autres. Ma priorité doit être Dieu et mon prochain. Je suis là pour voir Dieu m'utiliser avec les dons qu'il m'a donnés pour amener mon frère ou ma sœur à refléter l'image de Jésus. Et c'est avec ce souci-là, ce désir de laisser Dieu nous utiliser pour transformer les autres que je veux m'intéresser aux plus jeunes. Je dis pas que pour tout le monde, ça veut dire qu'il faut devenir un des responsables jeunesse ou qu'on doit enseigner au TE le dimanche matin, ou que chacun d'entre nous doit avoir la même facilité à interagir avec les ados ou les enfants, ou les nouveaux même ici à l'église. Mais chacun d'entre nous pouvons avoir un impact dans la vie des plus jeunes en s'intéressant à eux. Il y a un principe que j'ai lu dernièrement, je trouvais ça drôle la manière qu'il l'expliquait, parce que la personne disait, habituellement, dans un groupe jeunesse, il y a un leader pour 5 jeunes, environ. Et la personne dit, moi je vous propose d'avoir 5 personnes pour un jeune. Et là, tout de suite, elle dit, inquiétez-vous pas, je sais que vous avez de la difficulté à trouver des leaders pour s'impliquer dans votre groupe jeunesse, mais le principe, c'est pas que 5 leaders doivent se déplacer le vendredi soir à la jeunesse puis juste passer du temps avec un jeune. Mais le principe, c'est que plus il y a d'adultes dans la vie de ce jeune-là, plus il y a de chances que ce jeune-là soit impacté, influencé à vivre une vie qui reflète l'image de Jésus. Et ce que cette personne-là va dire, c'est que si on parle de 5 personnes impliquées dans la vie d'un jeune, ben ça peut effectivement être le leader de jeunesse, ça peut être son moniteur d'école du dimanche, ça peut être un adulte qui l'invite à prendre un café une fois de temps en temps, ou juste à venir lui dire bonjour le dimanche matin, puis lui demander est-ce que je peux prier pour toi. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites. Et des exemples concrets, comment s'impliquer dans la vie d'un jeune avec ce principe-là, ben ça peut être juste simplement de leur adresser la parole quand vous les voyez. Dites-leur que vous priez pour eux. Tu peux les inviter à venir chez vous pour un repas ou inviter toute sa famille à venir chez vous pour un repas en disant, mais je veux connecter avec les adultes, mais aussi avec les jeunes. Choisissez-en un jeune avec qui vous allez prendre un café une fois de temps en temps. Évidemment, avec la permission des parents. Et impliquez-vous. Tantôt, je disais, c'est pas nécessairement de s'appliquer comme à la jeunesse ou au TEE, mais c'est certainement ce que ça veut aussi dire ça. De prendre le temps de s'impliquer dans la vie des jeunes, à l'école, le dimanche matin au TEE, dans les ministères de jeunesse. Dieu fait des choses extraordinaires par le rapport qu'on a avec les jeunes de cette manière-là. Plus on s'intéresse aux jeunes, plus ils vont nous faire confiance. Plus ils vont se confier et on va pouvoir les encourager à faire le bien. On aura accès à pouvoir leur prêcher la grâce et leur montrer Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait dans notre vie si on a un lien avec ces jeunes-là? Et quand je regarde en arrière, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont eu une influence dans ma vie. Comme je disais tantôt, soit jouer au hockey-ball, aller prendre un café, inviter chez eux, qui m'ont parlé de leur vécu. Et je réfléchissais à ça parce que à la fin du mois de juin, j'ai fait cette prédication-là à l'église du Bon-Berger à Orléans, où est-ce que j'ai passé 3 ans. Et c'était vraiment drôle parce qu'il y avait dans l'église 2-3 gars, que c'était les gars qui ont eu pas mal d'impact dans mon adolescence, que je pouvais dire... Je pouvais reconnaître juste là, en présence de eux, au moins 3 gars, 4 gars même, qui ont eu un impact dans ma vie. Et quand je disais tantôt, même ceux qui sont plus jeunes que nous, dans notre foi, cette semaine, je pensais à notre frère François Lalonde, qui nous avait dit à un moment donné qu'un de ses rêves, c'était d'impacter la génération des 20 à 40 ans. Et je dis ça avec un peu d'émotion parce que je pense pas que François aurait pu m'impacter plus que comment il vit sa maladie en ce moment. Et vous voyez ce que je veux dire ce matin, c'est qu'il y a tellement de manières qu'on peut avoir de l'impact puis de l'influence dans la vie des gens. Ça pas on n'est pas obligé d'être formellement impliqué dans un programme ou un ministère, mais par nos vies. Comment est-ce qu'on vit nos vies? Et quand on a ce désir-là d'être impliqué, d'avoir de l'influence dans la vie de ceux qui sont plus jeunes que nous, Dieu se sert de nous de toutes sortes de manières. Et ça, je veux louer Dieu pour ça. Quand que le jour où est-ce que j'ai mis ma confiance en Dieu, j'étais jeune adolescent, et je me rappelle à ce moment-là où est-ce que je me sentais réellement à la croisée des chemins, où est-ce que c'était option A ou option B, c'était soit que je poursuis ma vie avec mes amis, ou est-ce que j'abandonne Dieu puis je fais juste les désirs de ma chair, ou que je continue à persévérer, ou est-ce que je commence une vraie relation avec Jésus puis que je persévère dans une vie avec lui. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il y a tellement eu de personnes qui ont eu un impact, des chrétiens qui ont eu un impact dans ma vie, que c'est ce qui a fait qu'un jour, je me suis mis à genoux puis j'ai demandé à Jésus de prendre ma vie, de prendre ma vie puis d'en faire ce qu'il voulait puis de le suivre. On a tous des témoignages différents puis on a tous des expériences différentes et je suis conscient qu'il y a des gens qui vivent peut-être plus dans la solitude et... Mais ce matin, ce que je veux, par mon expérience puis le cœur que j'ai pour les jeunes, ben je veux dire que c'est incroyable l'impact que juste une conversation ou s'intéresser à nos jeunes peut avoir. Et ce matin, ce message-là, c'est certainement pas un message pour se culpabiliser. Quand on parle de nos jeunes, je sais qu'il y a toujours ce petit côté-là où est-ce qu'on on pense toujours à 2-3 jeunes qui sont pas à l'église, qu'on aimerait qu'ils soient à l'église, je veux tellement pas qu'on commence à dire ben c'est de ma faute, puis je me suis pas assez impliqué dans sa vie, c'est plutôt un encouragement à persévérer et à désirer quelque chose. Et je le vois tellement de plein de manières dans cette église-là. Dans cette église-ci, l'église Le Sentier. Il faut pas regarder son expérience et dire, moi j'ai bien agi ou pas bien, assez bien agi, pas être assez bon ou assez bon, mais il faut aller à la croix et demander à Jésus la grâce d'avoir de l'impact dans la vie de nos jeunes maintenant. Et en une phrase, si on peut résumer le message de ce matin, tout ça pour dire que d'aimer nos jeunes, d'être vrai avec eux et de s'intéresser à eux. C'est ce qu'on a besoin de faire et Dieu va s'occuper du reste. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour tous les jeunes qui sont ici à l'église. Merci parce que tu les aimes. Tu les aimes, Seigneur, tellement que tu as donné ta vie pour eux. Tu nous aimes tellement que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur Jésus. Et je te prie que ça puisse devenir une bonne nouvelle dans chacun de nos vies. Dans chacune de nos vies, puis à chaque jour, quand on lutte avec quelque chose, quand on est découragé, quand on se demande quoi faire, qu'on puisse s'arrêter et se rappeler ce que toi t'as fait pour nous et comment tu as été patient et bon envers nous. Et je te prie, Seigneur, qu'en tant qu'Église, on puisse continuer à avoir les enfants, les ados à cœur, les nouveaux, Seigneur, qui veulent commencer à cheminer dans leur foi avec toi, qu'on puisse être accueillant, Seigneur, qu'on puisse s'intéresser à eux, qu'on puisse continuer à faire ça et qu'on puisse de plus en plus aller aussi vers les jeunes, juste leur dire bonjour, leur parler un petit peu et croire, Seigneur, que l'impact qu'on a dans la vie de ces jeunes-là va faire la différence. Et merci parce qu'on n'a pas cette pression de sauver les gens, Seigneur. Merci parce que toi, tu es là, puis toi, tu t'occupes de changer les cœurs. Tu t'occupes de nous montrer qui tu es et qu'on a besoin de toi. C'est dans ton nom qu'on veut te prier, Seigneur Jésus. Amen.